Si je dois donner ma propre définition du service client, je dirais que avant tout, c'est une attention toute particulière qu'on porte à la personne, à notre client. C'est l'envie de parler à ses sens, à quelque sorte, de le faire découvrir, d'expérimenter quelque chose de nouveau, autrement dire, faire vivre une expérience. Pour moi, en fait, le service client, c'est au-delà de l'idée de rendre service à quelqu'un, mais plutôt comprendre et connaître notre client pour anticiper ses envies.
Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Svetlana. Bonjour Svetlana.
Oui, bonjour Diane.
Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ça me fait vraiment très plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
Ben, moi aussi, ça me fait très plaisir.
Et pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en deux phrases?
Oui, bien sûr, donc je m'appelle Svetlana ou Claire, qui est l'équivalent de mon prénom en français. Je suis née à Moscou. Mais je peux dire que je suis une Parisienne de cœur et une Russe dans l'âme. Ça fait 10 ans que je vis et travaille à Paris. Et aujourd'hui, je travaille en tant que personnage shopper et conseillère en image avec mon nouveau projet que je suis en train de développer en tant qu'indépendant.
Alors là, tu nous as donné beaucoup d'informations. Je sens que ça va être très, très riche de Moscou à Paris. Mais avant ça, j'aimerais qu'on revienne sur le sujet du podcast qui est la modestie. Et pour commencer, j'aimerais relire le message que tu m'avais écrit sur LinkedIn. Mm-hmm. Donc, quand je t'avais contacté sur LinkedIn et que je t'avais posé la question suivante, en quoi la modestie est-elle une forme d'art contemporain, tu m'avais répondu, merci pour cette question qui m'a paru très intéressante, car je trouve qu'on parle peu de cette qualité qui est la modestie, la conscience de ses limites dans le monde d'aujourd'hui et encore moins dans l'industrie de la mode. À mon avis, la modestie fait partie de la sagesse, comme le dit le livre de Proverbes. La modestie implique aussi le respect des sentiments des autres, le respect de soi-même et le sens de l'honneur. De ce fait, il permet de créer une atmosphère agréable autour de soi qui favorise de bonnes relations entre les gens. Cela permet à chacun de s'épanouir dans sa créativité et son expression de soi. C'est donc une vertu qui insiste à la création et au libre-échange d'idées. C'était super beau.
Merci. Ben effectivement, quand tu m'as écrit, quand tu m'as posé cette question, il m'a tout de suite interpellée. Parce qu'effectivement, je me dis, ben, la modestie, déjà, c'est une qualité qu'on n'attend pas beaucoup de parler. Et encore, quand je t'ai répondu encore moi dans le monde de la mode, mais tout de suite, ça, tu vois, ça m'a interpellée. Je me dis, c'est beau déjà que quelqu'un qui pose cette question, qui amène à cette dialogue, à cette réflexion. Et tu vois, ma réponse tout de suite partie sur l'idée plutôt comment cette qualité en quelque sorte crée des relations propices à la création. Parce que je pense qu'à tant que la personne qui crée ou qui est personne qui veut créer quelque chose, communiquer quelque chose aux autres, il est besoin, en tout cas, il doit être à l'écoute des sentiments, des avis des autres. Et aussi, je pense que quand on pense à nos clients, aux gens avec qui on travaille, qu'on les respecte, on les respecte leur travail, ça leur donne aussi cette opportunité, en quelque sorte, de s'exprimer encore mieux, de parler plus de ce qui les anime. Et en fait, ça crée vraiment, pour moi, cette relation propice pour créer, pour avoir cette libre échange d'idées, comme je disais tout à l'heure. Donc, effectivement, pour moi, c'est quelque chose qui en quelque sorte, comme une forme de l'art aussi, de l'accepter l'autre, s'ouvrir à l'autre et s'ouvrir aussi à toutes ces idées. Parce que je pense que profondément, quand j'ai parlé de limite dans le sens que on peut pas tout savoir et tout maîtriser. On a besoin de l'avis de l'autre. On a besoin aussi d'avoir ce regard d'extérieur sur notre travail, ce qu'on fait. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que cette qualité d'autant plus intéressante à aborder dans ce contexte de création, dans l'art, dans la mode.
Et donc, la modestie serait un atout à la créativité?
Voilà, exactement. Moi, je pensais plutôt quand même à une vertu qui permet de créer. Voilà.
Et si maintenant on revient sur ton parcours, comme tu nous l'as dit en introduction, tu es née, tu as grandi en Russie, donc je suppose que c'est là aussi où tu as commencé tes études.
Oui, effectivement. Tu vois, je depuis toujours été passionnée par les métiers d'art et de la création. Et à la base, je voulais faire les études dans le design, mais sous le conseil de mes parents, j'ai fait plutôt les études dans l'hôtellerie de luxe. Donc tout ce qui est management de l'hôtellerie de luxe, autour de service client. Donc voilà, ça c'est mes études de base.
Et qu'est-ce que t'as appris, par exemple, avec les cours que tu avais, quels sont les principaux enseignements que tu as pu retenir?
En fait, je pense que de cette expérience, parce que j'ai travaillé, du coup, je faisais les stages dans les hôtels de luxe à Moscou. En fait, c'est à ce moment-là, j'ai découvert ce que c'est le service client, un peu le service d'excellence. Et aussi que, en fait, derrière chaque maison, chaque marque, il y a une histoire à raconter. Dans le sens qu'en fait, c'est pas juste rendre service à quelqu'un, mais c'est relayer ce que tu fais au sens qui tel ou tel enseigne il donne. Donc, en fait, c'est à ce moment-là, je découvre, voilà, ces relations clients. Aussi, c'est encore une fois, on revient au mot modestie, donc s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir à sa culture, de comprendre, parce que bien sûr, on a travaillé beaucoup avec l'intel étrangère. La plupart du temps, les gens qui travaillent dans l'hôtellerie, ce sont des étrangers aussi, qui parlent plusieurs langues. Donc, ça m'a donné cette ouverture aussi envers d'autres cultures. Ça m'a permis aussi de découvrir toutes sortes de services, en fait, qui existent au sein de l'hôtellerie. Donc, ça peut être dans l'accueil. C'était également aussi dans tout ce qui est service de formation, qui prépare des gens, qui est service de traduction. Également, le service, tout simplement, on commence avec des bases aussi. De housekeeping, les choses de base, mais il faut maîtriser ça pour par la suite pouvoir, par exemple, manager une équipe de housekeeping, par exemple. Voilà.
Et j'imagine que le client, il doit toujours être placé au centre des préoccupations.
Exactement. Donc, toujours à anticiper l'envie de client, de comprendre ce qu'il va demander, on va dire, dans quelques secondes. Oui. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé dans l'hôtellerie. Et par la suite, ces études-là m'ont donné l'ouverture aussi vers l'industrie du tourisme. J'ai eu l'occasion aussi de travailler à Moscou pour une ambassade de Belgique. En tout cas, c'était aussi mon travail était lié aux relations clients, de répondre à leurs problématiques, de les aider à constituer un dossier. Donc, tu vois, c'est plus côté quand même administratif, mais c'est toujours autour du service client, de comprendre l'envie de client, de les satisfaire, de les renseigner. Voilà, c'est quelque chose que je faisais autour de service autour de clients, beaucoup, beaucoup en tout cas à cette époque quand j'étais à Moscou.
Et de manière générale, comment est-ce que tu définirais le service client? Qu'est-ce que le service client?
Alors, si je dois donner ma propre définition du service client, je dirais que avant tout, c'est une attention toute particulière qu'on porte à la personne, à notre client. C'est l'envie de parler à ses sens, à quelque sorte, de le faire découvrir, d'expérimenter quelque chose de nouveau, autrement dire, faire vivre une expérience. Et pour moi, en fait, le service client, c'est au-delà de simple l'idée de rendre service à quelqu'un, mais plutôt comprendre et connaître notre client pour anticiper ses envies. Et peut-être ça rassemble plus à la définition de service d'excellence, mais en tout cas, c'est comment je le comprends, comment je le perçois, également ce que j'ai envie d'apporter aussi à mes clients, peu importe le métier que j'exerce. Faire voyager ton client, de l'amener dans ton univers, en tout cas dans ton univers si tu présentes ton produit, mais dans l'univers telle ou telle maison, telle ou telle marque. Et dans l'hôtellerie, c'était qu'il se sent chez soi, en fait, l'aider de toutes les chambres d'hôtel, que les clients soient chez soi, que les clients soient accueillis, qu'ils soient bienvenus. Donc, voilà, tout ça, c'était pour moi le service, la qualité en tout cas service.
Et après ces expériences, t'es venue en France ?
Oui, donc quand je suis arrivée en France, ce qui est intéressant, voilà, quand je me disais toujours, on a une envie de faire quelque chose. Tu vois, avec ces études-là, quand je suis arrivée à Paris, j'étais contactée justement.
Je te coupe, oui? Mais pourquoi tu es venue à Paris ? Pourquoi ce choix et, ouais.
Bah, à la base, je suis venue à Paris pour la raison personnelle, parce que j'ai une famille ici. Quand je suis justement arrivée à Paris, j'étais contactée par les gens de l'hôtellerie qui ont à ce moment-là, en fait, un grand magasin parisien décidé de créer le service de Guest Relation. C'est le service qui existe d'ailleurs dans tous les hôtels. C'est justement le service client. Mais ils ont décidé d'amener cette idée de service au sein de grands magasins qu'encore une fois, accompagner le client dans leur choix, de faire vivre une expérience de shopping avec tout le soin et attention apportée au client. Et donc voilà, c'est comme ça, je suis rentrée dans le monde de la mode. En fait, c'est quelque chose que je voulais toujours faire. Et là, je me dis, c'est juste une opportunité, relayer le service client au mode de fashion qui m'a passionnée depuis toujours. Voilà, c'était juste une excellente opportunité pour moi de continuer, on va dire, ma vie professionnelle sur ce plan-là. Voilà.
Et tu faisais quoi ? Quel était ton rôle ?
Alors, du coup, mon rôle était en quelque sorte, on parle de guest relations, donc c'est intermédiaire. En fait, j'ai travaillé donc dans le service VIP, donc c'est pour la clientèle multilingue, multiculturelle. Donc, on était déjà à la base formés pour présenter la maison, donc la maison que je présentais, et également les produits aux clients avec différentes attentes, différentes cultures. Donc, en fait, on était en quelque sorte des intermédiaires entre les maisons de couture, de parfum, de haute joaillerie et le client. En fait, notre idée, c'était amener les clients dans ces univers-là, de les bien présenter en fonction de ses attentes, aussi organiser son parcours de shopping, organiser également un petit peu sa vie à Paris, parce qu'on était un peu dans le rôle de concierge aussi. S'il fallait faire des réservations des hôtels, de trouver des billets de théâtre, donc réserver de... voilà. Donc, c'était en quelque sorte d'un côté accompagnement shopping, le service en interne et aussi conciergerie, un peu service en externe.
Et toujours avec une clientèle internationale.
Exactement, exactement. Justement, c'est ça ce que j'ai adoré parce que, à part que j'ai travaillé dans l'équipe multilingue internationale, mes clients étaient des clients, par exemple, au Moyen-Orient, les clients de venant d'Asie, d'Amérique, les clientèles russophones. Et en fait, c'est ce qui est intéressant aussi que découvrir que tu t'adresses pas la même manière à chaque client, même si tu dois présenter le même service, le même produit, mais l'approche, la manière d'être, tout change. Et en fait, je trouvais ça extrêmement intéressant à découvrir, à apprendre ça, parce qu'on était d'ailleurs formé pour ça. On a étudié, par exemple, l'étiquette dans tel ou tel pays, comment on répond au téléphone, comment, tout simplement, on donne la carte de visite, quelle manière, comment on regarde le client, quelle approche on fait. Et ça, je trouvais extrêmement enrichissante comme expérience.
Et c'est en entreprise qu'on vous a appris à s'adresser aux clients tout en respectant et en s'adaptant à sa culture?
Oui, après, c'est les recherches aussi qu'on fait soi-même, qu'on observe les clients. C'est aussi le partage qu'on avait entre nous, donc, parce qu'on a l'équipe internationale et chacun amenait un petit peu sa culture. Mais on avait des intervenants de différents prestataires qui venaient nous enseigner ça. Et pareil, qu'on a collaboré beaucoup avec les maisons de l'hôtellerie ou d'autres maisons de luxe, de prêt-à-porter. Ils nous ont formés aussi.
Et est-ce que tu remarques des différences entre le service client, on va dire, de manière générale, à Moscou et à Paris?
C'est très, très bonne question. Mais c'est aussi, révèle peut-être au côté culturel. C'est vrai que peut-être, un sens, vraiment l'essence de service client, j'ai découvert plus en France. Ce que c'est raconter une histoire, d'être vraiment l'ambassadeur de telle ou telle marque, parce que j'avoue, peut-être en Russie, j'avais cette expérience, si je parle pas que dans l'hôtel où je travaillais, en soi, peut-être en ce moment-là, c'est quand même il y a un certain temps, c'était pas quelque chose naturel. Par exemple, quand quelqu'un comme moi, en tant que cliente qui venait au magasin, qui voulait acheter quelque chose, imaginons, voilà, ces cas de figure. J'étais pas vraiment renseignée, j'étais pas vraiment accueillie comme on a ça en France. Je pense que l'excellence de service, j'ai découvert plus ça ici. Après quelques années, quand je suis revenue en Russie, je constatais le changement. Donc ça commence un peu, donc peut-être justement, ça vient que les gens commencent à voyager plus, à voir comment ça se passe ailleurs, que en fait, c'est le client qui est le roi. Je pense qu'on n'avait pas cette notion, en tout cas en Russie, que le client est le roi. Nous, c'est genre que moi, je fais ce service, je te rends service. C'est presque partir de l'idée, tu es venu, qu'est-ce que tu cherches, pourquoi tu es venu là. Mais en France, c'est au contraire, c'est le client qui est le roi et on essaie de s'adapter à lui. Voilà, peut-être ça revient aussi l'idée qu'on cherche ici à apprendre sa culture, apprendre sa langue pour le communiquer avec lui. En Russie, bon, je sais que tu as aussi l'expérience d'être dans ta vie professionnelle en Russie. Je ne sais pas si tu as constaté ça, mais on ne va peut-être pas toujours faire un effort de parler ta langue, de te répondre en anglais, par exemple. Voilà, maintenant ça change. Mais comme moi, j'étais encore aussi dizaines d'années, ce n'était pas encore le cas. Je parle pas de l'hôtellerie, bien sûr.
Moi, j'ai envie de dire que j'ai l'impression que maintenant, il faut un peu d'effort. Parce que, par exemple, je me rappelle que quand j'étais en Russie, parfois, quand ils savaient parler anglais, ils me parlaient en anglais, c'est moi qui leur parlais en russe pour leur faire comprendre que je voulais parler russe. Donc, peut-être que ça a évolué, peut-être.
Oui. Après, ça dépend, bien sûr, où tu es. On a quand même plein de gens qui parlent anglais.
Non, c'est vrai que j'étais à Moscou et que j'imagine que plus on s'éloigne...
Exactement.
Et si on revient sur ton expérience, après cette expérience dans les grands magasins, qu'est-ce que tu as fait?
Alors, justement, quand j'ai découvert ce métier de personal shopper, parce que c'est quelque chose qu'on t'a amené à faire, bien qu'en fait, en tant que guest relation, on était un peu... multifonctionne. Donc, personnel shopper s'occupait que de prêt-à-porter. Nous, on pouvait amener les clients aussi dans les boutiques de prêt-à-porter, mais on s'occupait aussi d'autres joailleries, on s'occupait aussi du parfum, de l'art de table, donc toutes ces parties-là. Et je me dis, c'est exactement la chose qui m'anime. C'est qu'à la base, tu vois, je voulais être créateur, créer de vêtements. Je me dis, en fait, on peut créer des looks, on peut aussi créer une image et tout ça avec les connaissances de service client, de amener la personne dans ton univers, raconter des choses. Je me dis, c'est extrêmement intéressant comme métier et je me dis, moi, j'ai envie de développer ça et j'ai commencé justement à me renseigner, poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Quel peut être... connaissances il faut avoir en plus pour par la suite développer ça, peut-être un jour travailler en tant qu'indépendant. Et en fait, j'ai réalisé que dans mes études, dans mon parcours, c'était toujours tout le temps autour de service client plus les services. Voilà, c'est ce qui m'a animée depuis toujours, je pense. Mais il y a aussi le parti de retail. Il faut aussi comprendre comment ça fonctionne, comment on présente le produit, comment on vend le produit. Et je me dis, ce sera quand même une très, très bonne école d'apprendre technique de vente. Vraiment apprendre ça et savoir vendre le produit qui coûte, qui a un certain prix. Et pour moi, c'était une très, très bonne école. En tout cas, j'ai appris ça, les techniques de vente, au sein d'une maison de haute joaillerie, à côté de Place Vendôme. Et pour moi, voilà, c'était une opportunité d'apprendre vraiment ça, d'approfondir mes connaissances au niveau de vente, comment on présente le produit.
Concrètement, ça m'intéresse. En fait, c'était une école Place Vendôme dont le but était de vous former à vendre des bijoux ou des diamants au prix élevé.
Non, c'était pas l'école, c'était carrément une marque pour laquelle je travaillais. Je veux pas la dévoiler son nom. Mais en fait, la partie de contrat, c'était le fait que pendant plusieurs mois, j'étudie, en fait. Je venais au travail, mais je faisais plutôt mes études. Voilà, d'accord. Je trouvais ça assez intéressant. Commencer vraiment, c'est un peu comme, je dis pas que c'est une alternance. Moi, j'étais un vrai employé. Mais je venais au travail pour observer, pour apprendre des choses. Moi, d'accord. Je trouvais ça très, très intéressant parce que... Mmh. Et après, c'était la pratique, c'était aussi le travail avec les clients, bien sûr. Mais au départ, c'était vraiment, je venais avec mon cahier pour étudier.
Ah ben ça a dû être voilà. Super intéressant.
Oui. Donc voilà, comme ça, j'ai découvert cette partie-là. Mais après, l'idée aussi, c'était partir quand même... sur les connaissances du style, de stylisme. Et par la suite, quand j'ai eu l'occasion de travailler comme personnel styliste, je commençais en tout cas à travailler comme personnel styliste pour une marque de prêt-à-porter. Là, en parallèle de mon travail, j'ai intégré une école de métiers d'art et design à Paris qui formait justement des conseillères en image, conseillères en image professionnelles ou personnelles. Et donc là, j'ai appris justement des techniques qui permettent de bien conseiller le client, donner des conseils vraiment stylistiques. Donc, c'est pas juste ma vision de choses parce que ça me plaît, je trouve ça le va, mais vraiment apprendre des techniques, d'apprendre comment le vêtement tombe, apprendre aussi sur différentes morphologie, apprendre aussi la colorimétrie, donc toutes ces bases que toutes les stylistes doivent savoir pour bien conseiller, en tout cas pour créer des looks, pour proposer en fait des looks à tel ou tel client.
Et donc il y a une vraie théorie derrière, mais pas conseillère en image qui veut, il y a vraiment des choses à apprendre et à connaître.
Oui, c'est en fait, après il y a des choses, moi personnellement je connais des gens qui ont appris ça sur le terrain. Effectivement, je pense que ces métiers sont pas plus pratiques que théoriques. En fait, il faut pratiquer. Mais moi j'ai décidé de faire ça parce que je me dis j'ai besoin aussi avoir ce vocabulaire professionnel pour savoir bien expliquer ça aux clients, bien que en pratique on commence à sentir des choses si on exerce, si on a l'œil aussi, si on exerce certaines choses, on commence à sentir les choses. Mais comment expliquer ça au client aussi? Pas que c'est juste que je sens ça. Je veux dire, c'est pas très professionnel. Je sens que ça vous va, je sens que c'est ça ce qu'il vous faut. Mais comment coûter professionnel avec les termes, je veux dire, en quelque sorte technique, pas forcément, mais avec termes professionnels aussi, expliquer ça aux clients en disant que, regardez, par rapport, par exemple, votre teinte naturelle, c'est cette couleur qui pourrait vous aller mieux, ou si vous voulez jouer avec, par exemple, souligner votre taille, c'est ça qui je peux vous proposer comme des techniques, telle ou telle coupe, telle ou telle matière. Donc, rentrer dans tout ça, c'est très, très intéressant aussi un peu l'étudier de plus en détail. Et moi aussi, cette école m'a permis de réaliser qu'en fait, il y a des codes. Bon, il y a dress code, on en parle souvent, mais dans chaque pays, dans chaque culture aussi, il y a des codes de se vêtir, des codes qui en quelque sorte a aussi un langage non verbal qui exprime tel ou tel message. Et ça, je me dis, c'est extrêmement intéressant de creuser un peu plus, de comprendre qu'est-ce que signifie telle ou telle pièce de garde-robe en Russie ou en France, qu'est-ce que ça veut dire cette couleur ici. Donc voilà, après, il y a des choses assez, on va dire, généreuses dans tous les pays. Mais c'est quelque chose que j'ai appris aussi et je me dis, c'est intéressant de développer ça et montrer aussi aux clients qu'en fait, que c'est pas l'idée que se sentir bien avec dans ses vêtements, d'être aligné peut-être avec le style qu'on véhicule, mais c'est aussi comprendre si tu souhaites travailler telle ou telle qualité, si tu as envie de ressortir par exemple ta douceur, ta féminité, si je m'adresse à une femme, qu'est-ce que tu peux utiliser en s'appuyant sur ces codes-là, comme matière, comme couleur, comme l'imprimé, comme look général. Donc je veux dire, voilà. Ça, c'était très intéressant aussi à découvrir et par la suite proposer justement, comme j'ai pratiqué, on va dire, en même temps, proposer ça à mes clients.
Voilà. Et ce qui est bien, c'est que tu le fais aussi même sur toi-même, parce que je me rappelle toujours quand on avait vu ensemble la créatrice Maud Beneteau et je voyais comment un peu, je sais pas si c'était avec les masques, tu testais avec ta couleur pour savoir si ça t'allait au teint et j'étais vraiment impressionnée de voir ça.
Oui, mais c'est quelque chose qu'on sait, on applique pour nous et ça commence avec nous. D'ailleurs, on apprend quelque chose, on applique. Et c'est vrai que là, j'ai découvert aussi un peu le pouvoir de couleur, si on peut dire ça, la colorimétrie. En fait, j'ai réalisé que il y a des couleurs, les palettes de couleurs qui nous correspondent. Surtout ce qu'on met près de notre visage, tout ce qu'on utilise pour le make-up, ce qu'on utilise pour le haut. En fait, pour le parti, tout ce qui est des accessoires près de visage, que en fait, c'est un impact énorme sur notre teint, sur notre image qu'on donne aussi. Voilà, donc c'est très très important. C'est pas à négliger.
Ouais. Et donc, si on revient sur ton projet, tu as lancé un projet autour de ça, tu peux.
Oui, et donc du coup, tu vois, après ces études-là, donc je continue à travailler pour cette marque. Voilà, si j'ai pu évoluer aussi à l'intérieur, d'être justement animée des formations pour l'équipe, donc déjà aussi apprendre aux autres mes connaissances stylistiques. Et en parallèle, je me dis, c'est quand même, j'aime deux parties. J'aime bien aussi. Encadrer une équipe, de faire cette participer aux formations, de s'occuper un peu de management d'un boutique, mais de l'autre côté, ce qui m'anime depuis toujours, c'est être en contact direct avec les clients, les apporter justement ce conseil, d'être avec eux, de les conseiller, et moi j'invite en fait de mettre en pratique de toutes ces connaissances, toutes les inspirations qui je ressens, on va dire, que je m'imprègne en vivant en France, en vivant à Paris. Je me dis, j'ai découvert par exemple la mode parisienne, ce que c'est le style parisien qui m'a énormément impressionnée avec sa, quelque sorte, sa légèreté, sa, qu'on appelle ici un peu le look sans effort. Et moi, je me dis, il y a tant de choses qui me parlent et que j'ai envie de transmettre à mes clients. En fait, l'idée, c'était amener, en tout cas, les clients qui viennent à Paris, découvrir, en fait, les faire voyager au cœur du style parisien, les faire découvrir aussi toutes ces des petits créateurs, des artisans, de leur parler de tout ce qu'on a beau ici. Et voilà, l'idée, c'est un peu sortir de contexte d'une entreprise, d'une marque, mais vraiment faire ça avec les créateurs, les marques qui m'inspirent et proposer mes propres parcours de shopping thématique, justement pour faire, par exemple, découvrir une vie quotidienne d'une Parisienne, ses approches de la mode, ses approches en matière de beauté, comment elle s'habille, quelles pièces composent sa garde-robe, où il fait son shopping, quel quartier il privilégie, quelle marque il aime bien. Donc, par exemple, c'était une thématique que je choisis pour un de mes parcours. Mais pareil, aussi parler de tous les grands créateurs qui ont travaillé à Paris, parler de leur parcours, peut-être aussi faire un peu des parcours thématiques dans les quartiers où ils habitaient. Voilà, il y a tant de choses qui, je me dis, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de parler à mes clients. Et donc, comme ça, ce projet est né. En fait, j'ai commencé à faire ça en parallèle de mon travail parce que j'ai, par mes contacts, les gens m'ont demandé faire de ces parcours, d'accompagner leurs clients, en tout cas. J'ai des contacts comme ça, accompagner leurs clients à Paris en tant que personal shopper. Et par la suite, je me dis, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire en plus, et c'est quelque chose qui m'anime. Et donc, comme ça, l'idée est venue de devenir indépendant et vraiment créer ce projet. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire comment je l'appelle.
Ben c'est toi, si tu as le droit, c'est toi qui... c'est ton
projet.
Oui,
oui. Hein. Donc, en fait, mon projet, je l'appelais Paris Claire Style. Donc, comme tout à l'heure, je me suis présentée mon prénom, l'équivalent de mon prénom, c'est Claire. Et Paris, parce que c'est Paris qui m'a inspiré cette idée. Et c'est à Paris que, je vais dire, je crée, que je m'inspire de ça. Et style, parce que c'est autour du style, parce que pour moi, le style, c'est vraiment ce langage non-verbal. C'est quelque chose qui doit être aligné avec nos pensées, parce que pour moi, j'aime beaucoup la phrase qui dit « le style, c'est que habille les pensées », parce qu'il en fait, il montre notre personne intérieure. En fait, c'est ça l'idée, en fait, véhiculer l'image de ce qu'on a nous-mêmes, ce qu'on a en nous, et que ça soit aussi compréhensible pour les autres. Donc, tout ça, c'est plutôt autour du style, parce que pour moi, ça, comme disait Mademoiselle Coco, la mode se démode, mais le style reste. Donc, voilà, c'est pour ça, mon projet, j'ai appelé comme ça, Paris Claire Style, c'est facile à retenir, mais... voilà, le projet, c'est justement faire vivre la mode parisienne, faire découvrir aux clients ce savoir-faire qu'on a ici, en France. D'ailleurs, c'est ça qui m'a tout de suite, en quelque sorte, interpellée et touchée quand je suis arrivée à Paris. C'est ce respect que, en tout cas, les Français, ils ont pour leur savoir-faire. En fait, à quel point ils sont attachés à la tradition, au savoir-faire, ils parlent avec tant de fierté, je comprends. Et malheureusement, par exemple, en Russie, on a tant de productions artisanales exceptionnelles, mais il y a certaines choses qui perdurent dans le temps, mais beaucoup, on l'a perdu. Et là, je trouve que c'est tellement beau ce que les Français arrivent à faire, que vraiment créer cette... autour de chaque petite maison, chaque créateur, il y a toujours une histoire derrière, il y a toujours c'est souvent leurs parents, leurs grands-parents, ils étaient le tel métier. Moi, je trouve que c'est extrêmement beau, tu vois, ce que ça, c'est autour de l'artisanat. Il y a beaucoup l'accent, en tout cas, mis en France autour de l'artisanat, de savoir-faire. Et ça me parle beaucoup. Voilà.
Et c'est vraiment beau de célébrer tous ces savoir-faire à travers des parcours parisiens pour aller à la rencontre de ces artisans comme tu veux le faire. Et j'espère juste que le confinement sera bientôt levé.
Ah, exactement.
De faire des parcours maintenant, mais dans tous les cas, on va vraiment rester à l'écoute des nouvelles actualités. Et je mettrai aussi le lien de ton site en description pour les personnes qui souhaitent en savoir plus. Et si on passe à la dernière étape, à la dernière partie, pardon, du podcast, qui est plus basée sur tes inspirations. Est-ce que tu pourrais me dire trois créateurs ou marques qui incarnent ta vision de la modestie dans la mode?
Alors, c'est très intéressant comme question. Et moi, tu vois, j'ai envie de l'aborder plutôt par rapport que tel ou tel créateur dégage, où je vraiment vois sa côté, on va dire, modeste. Et donc, première personne, en tout cas, première créateur qui me vient à l'esprit, C'est Simon Porte, Jacquemus, parce que je trouve qu'à chaque collection, il nous raconte une histoire, il parle avant tout de ses inspirations, de ses artistes préférés. Et en fait, on a l'impression de rentrer dans un tableau, en fait, vivre une expérience. Et moi, je trouve, de sa part, c'est très aussi modeste de plutôt présenter à travers ses collections des inspirations d'autres artistes, ce qu'il inspire, que parler de sa personne. En fait, même si on le connaît, c'est quand même personne publique, mais je trouve qu'à travers sa création, il ne se met pas vraiment lui en avant. Il met en avant sa passion pour le sud de la France, ses inspirations. Il parle beaucoup, beaucoup des artistes à chaque défilé. Quel artiste l'a inspiré? Pourquoi elle a fait tel choix de couleur, tel choix de décor? Donc voilà, première, je pense, créateur, je dirais lui. Deuxième, je dirais, c'est une créatrice que j'aime beaucoup, c'est Isabelle Marant, parce que pour moi, elle montre sa coûte, je veux dire, cette modestie, cette personne assez humble, parce qu'elle est à l'écoute beaucoup de sa cliente. En fait, elle crée les vêtements pour le quotidien, les vêtements pour une vraie femme qui pourrait les porter au quotidien. Et je trouve que c'est aussi révèle sa côté modeste aussi, pas créer juste exprimer sa créativité, créer de super looks, de défilés, mais vraiment s'adresser aux clients, d'être à l'écoute de ses besoins, en fait. Voilà, moi je trouve qu'il est très à l'écoute de ça. Et après aussi, ce mode de vie véhicule aussi cette image de simplicité, parce que c'est quelqu'un assez authentique, une femme nature, en quelque sorte cool, qui passe ses week-ends à Fontainebleau dans un cabin sans zone électricité. Tu vois, aussi, un peu, si revenir côté, revenir à l'essentiel, elle fait ça par elle-même dans son mode de vie, elle incarne ça. Et troisième personne qui, pour moi, a vécu cette image de modestie, je dirais, c'est Morgane Cesalori, la créatrice et cofondatrice de la marque Cézanne. Je dis ça parce que ce que me touche, en tout cas, quand j'écoute ces interventions, ces interviews, il parle rarement, en fait, il parle jamais du côté que, voilà, j'ai cette idée, j'ai réussi à faire ça et ça. Souvent, elle parle de la chance. Elle a dit, j'ai la chance de rencontrer telle personne, j'ai la chance d'être entourée par tous ces gens-là qui m'ont poussé à créer, qui m'ont poussé à faire des choses. Moi, je trouve que c'est extrêmement humble et modeste de sa part de dire ça. Et après, même en soi, le concept de l'appartement 16 ans, c'est en quelque sorte une invitation de venir chez elle, comme si elle invite des gens chez elle à la maison avec cet accueil extrêmement amical, en quelque sorte. Et on sent tout de suite un peu en étant dans nos appartements d'un ami. Voilà, donc je trouve autour d'elle, elle véhicule cette image de bienveillance, de encore une fois à l'écoute de l'autre, et même la philosophie de son entreprise, c'est un peu ça aussi, chercher des gens un peu atypiques, créatifs et créer vraiment l'ambiance de bienveillance au travail. Moi, en tout cas, je sens dans ce qu'il fait, comment il travaille, comment il parle de ses collaborateurs, on sent ça. On sent vraiment la personne assez rayonnante, authentique et modeste.
Voilà. Et donc, vraiment, la bienveillance et s'ouvrir vers l'autre, sont vraiment des qualités importantes.
Exactement, exactement. Pour moi, c'est en tout cas, c'est voilà, ces trois personnes-là, elles les véhiculent à leur manière, cette modestie pour moi. Voilà.
Et si on passe dans le monde de l'art, quels seraient les trois artistes qui incarnent ta vision de la modestie dans l'art?
Alors, si on part de monde de l'art, moi, je partirais ici sur les artistes qui vraiment subliment ce qui existe déjà dans la nature. Parce que pour moi, c'est une sorte de modestie aussi qu'en tant que créateur, se dire que je ne veux pas tout refaire, je crée quelque chose d'extrêmement nouveau, mais plutôt réfléchir par rapport à l'objet, par rapport en tout cas l'élément de la nature, comment je peux l'intégrer dans tel ou tel espace, de le sublimer, de le travailler. Et ici, je pourrais citer un artiste que, en tout cas, moi, je trouve le regard particulièrement inspirant, parce que les voit beauté dans les choses qui sont dédiées à la destruction. C'est l'artiste plasticien contemporain allemand qui s'appelle Anselm Kiefer, qui crée justement à la base des matières qui sont en train de se décomposer, se détruire, qui est abîmée par la guerre. Et moi, je trouve c'est extrêmement humble et, de sa part de voir, en tout cas, voir cette beauté et créer la beauté avec tous ces objets, toutes ces matières qui sont en train de se décomposer. Et moi, je trouve qu'il a fait des choses juste exceptionnelles. Deuxième, peut-être, artiste que je pourrais citer ici, qui est bien sûr extrêmement connu, mais je trouve c'est un artiste français, Pierre Solage, qui travaille beaucoup, c'est l'artiste de l'art qui travaille beaucoup avec la couleur noire. Et en fait, il travaille tellement profondément cette couleur que voilà, il a sa réflexion au fait que la lumière réfléchit par les états de surface de noir. Et il crée avec ce noir quelque chose tellement profond qui, moi, personnellement, ça me touche énormément. Voir comment cette couleur comme noire, elle réfléchit la matière, qui réfléchit plutôt la couleur, la lumière, et comment avec cette lumière, on voit les profondeurs de noir, c'est créer une sorte de matière. Je trouve que comment il sublime, en tout cas le noir, après on parle souvent aussi de l'outre noir qu'elle a créé, c'est juste pour moi extrêmement touchant son travail. Et récemment, elle a fait l'exposition au musée de Louvre, et là j'ai pu assister à certaines de ses conférences et voir des films avec lui. Et là, dans ce film-là, je voyais justement sa studio de création, où il crée, comment il crée. Et moi, je remarquais aussi, c'est la personne extrêmement humble, parce qu'elle parle beaucoup de retenue de soi-même. Elle parle plus par les choses qui les animent, par le travail, le processus de travail aussi, comment elle sublime les matières, de la couleur, de ses recherches. Je trouve que, en soi, ça reste personne extrêmement humble, mais en créant des choses juste exceptionnelles. Voilà. Et s'il faut citer d'autres artistes, encore une fois, je peux parler des heures, tu vois, il y a tellement d'artistes qui me passionnent, et je trouve justement sur la lignée, moi personnellement, je fais cette remarque, cette observation, qu'en fait, les artistes talentueux, ils parlent peu déjà d'eux-mêmes, ils parlent déjà de leur art, ils parlent plus d'autres artistes aussi. Et qu'on les complémente par rapport à leur art, leur création, ils sont à l'écoute, ils sont extrêmement touchés. Moi, par exemple, par mes connaissances, j'ai des amis qui sont des galéristes. J'ai l'occasion de rencontrer certains artistes, leur parler, mais je me dis, mais c'est juste exceptionnel l'humilité, personnes modestes qu'ils sont. Et là, par exemple, je repense à Emmanuel Bousse. C'est un artiste qui travaille pour la manufacture du Sèvres, et d'ailleurs il est considéré comme l'un des meilleurs céramistes français. Et déjà, comme je le parlais de son travail qui m'a touchée, je trouve c'est juste sublime comment elle travaille le céramique. Lui, il était, je sens qu'il était, je dis pas ému, mais il était, c'est le phénomène plaisir, qu'il était à l'écoute de la vie d'une personne, qui est juste touchée par son art. Et pareil, quand il m'a fait visiter Manufacture du Sèvres, il parlait peu de lui, mais en fait, il parlait pas du tout de son travail. Et justement, il a parlé de tous ces artistes céramistes qui l'inspirent, il parlait plus de leur travail. Et moi, je trouvais c'est extrêmement humble aussi de se mettre en retrait, se dire, tel artiste a fait ça. Moi, je trouvais ça extrêmement beau. Et après, il y a tant d'autres artistes. Tu sais, récemment, l'année dernière, elle avait l'expo dans le Carré du Temple pour le Carré d'Hermès. Et là, j'ai l'occasion de rencontrer un couple d'artistes. Mais pareil, tu vois, ils m'ont touchée par leur modestie. C'était Charles et Henry et son épouse Eline Petronel, je ne sais pas si je prononce bien son prénom. En fait, ils font le broderie à la main, mais ils font le broderie comme une chef-d'œuvre. Tu vois, même l'Hermès les contactait pour faire la broderie sur les carrés d'Hermès. En ce moment, je pense qu'ils font des cours de broderie sur Internet, mais le couple est extrêmement créatif, passionnante, dans le sens que c'est très intéressant de discuter avec eux. Et pareil, des personnes très, très humbles qui se mettent pas en avant. Et à l'occasion de même expo, je rencontrais aussi un artiste que je suivis grâce à mes amis qui ont la galerie d'art contemporain. Ça s'appelle Galerie Bissière, qui se trouve sur l'île des impressionnistes au château. Et eux, ils ont exposé un jeune artiste qui s'appelle Octave Marsal. En fait, c'est un génie du crayon. Et lui, il était présent justement à cette expo-là parce qu'il fait pas mal de collaborations avec Hermès pour les carrés d'Hermès. Il crée juste des dessins exceptionnels avec les éléments architecturaux très complexes qui sortent de différents styles d'époque. Et quand je lui ai parlé, je me dis, mais c'est pareil, c'est une personne extrêmement accessible, simple, qui est ouverte à la discussion, donc qui était même touchée. Voilà le fait que j'ai découvert il y a un certain temps déjà son travail, que je le suis. Donc voilà, moi je trouvais ça extrêmement, extrêmement beau. Tous ces artistes, tous ces talents qui restent humbles et qui parlent plus de leur création, dans leurs inspirations, de créer vraiment les choses que parler d'eux-mêmes. Voilà. Mmh. Dans ce sens-là, je vois leur côté modeste.
C'est super inspirant. De toute façon, tous les artistes que tu viens de citer, je vais les mettre dans un document, dans la description, parce que ça donne vraiment envie de découvrir davantage leur travail. Et en plus, tu as parlé un peu d'exposition au mode, donc tu as un peu devancé la question suivante, mais je suis sûre que tu en as d'autres à partager. Est-ce que tu peux me parler à une ou peut-être deux qui t'ont marqué?
Oui, écoute. Ça, c'est une de mes questions préférées, Diane. Parce que tu vois, je me dis, vraiment le mot marqué, ça tombe très bien parce qu'effectivement, il y a quelques années, c'était en 2018, pour l'année de Japon à Paris, j'ai assisté à une expo, mais juste exceptionnelle. Elle s'appelait Fukami, qui signifie profondeur en japonais. Donc, Fukami, une plongée dans l'esthétique japonaise. Il s'est passé à l'hôtel de Salomon de Rothschild à Paris. Et là, il y a plusieurs artistes qui ont quand même travaillé autour de l'esthétique japonaise, mais il y a un artiste qui est assez connu, Lee Ufang. C'est un artiste coréen, mais il travaillait beaucoup pour le Japon, en tout cas au Japon. Et là, pour cette exposition, en fait, elle a recréé un jardin zen des pierres fissurées. C'était l'ardoise cassée qui recouvrait le sol donc de ce beau atel particulier. Et son idée à la base, c'était créer cette côté instabilité qui vivent les habitants de Japon à cause de tremblements de terre. Donc, cette côté de fragilité. Mais moi, personnellement, tu vois, quand j'étais dans cette pièce-là, j'ai passé, je pense, des heures. Tellement c'était beau. Et moi, je regardais aussi le coucher de soleil, comment il se couche à travers toutes ces ardoises. Et moi, personnellement, la sensation que j'ai eue, c'est d'être dans les tableaux de Soulages, Pierre Soulages, qui justement travaille, qui part noir, par la couleur noire, capte la lumière. Mais sensation que j'ai eue à ce moment-là, je me dis, mais c'est juste sublime. C'est juste sublime. Je pense que c'est ces rares moments où je passe tant de temps dans une pièce. Cette pièce n'était pas énorme, je pense 2 heures, dans différents angles, voir comment les lumières jouent, les sensations que ça crée. J'ai fait quelques belles photos, mais ça me marquait vraiment. Là, je me dis, cet artiste est juste exceptionnel. Et d'ailleurs, je le trouve dans sa créativité beaucoup de modestie, parce que c'est un des artistes qui prend les éléments de la nature brute et qui les sublime. En fait, elle crée un dialogue en plaçant tel ou tel élément dans l'espace. Lui, il a fait à l'époque aussi une collaboration avec Jardin de Versailles. Elle plaçait aussi des pierres en certains, je veux dire, en certains endroits pour créer un dialogue entre château, les jardins, ces pierres-là. Et pareil, là, je me dis, c'est simple ardoise, mais il a sublimé tellement ce simple élément de la nature. Bon, je dirais même pas simple, mais c'est l'élément brut. Et ça prenait tellement de dimensions, de profondeur dans cet espace de beaux hôtels, qui est l'hôtel de Salomon de Rothschild. Mais je me dis, mais c'est tant d'humilité de juste sublimer déjà ce qu'est la nature est là. En fait, c'est ça aussi, cette côté humble qui est là. Après, c'est la personne, pareil, on le voit pas beaucoup au niveau de, moi, j'ai une copine qui est galériste coréenne, justement, qui a l'occasion de collaborer un petit peu avec des gens qui travaillent avec lui. Donc, encore une fois, c'est la personne, qui dit pas ce qu'il fait, il parle pas autant de, il crée, voilà, il fait pas, publicité autour de son nom, son image. Voilà,
quelqu'un très modeste aussi. Plutôt que...
Exactement.
C'est super. T'en as une autre?
Ben, j'ai une autre plutôt dans la mode. Je ne sais pas si tu parles de ça. Parce que...
Avec plaisir, oui.
Parce que si on quand même revient à la mode et l'expo qui m'a marqué. C'est vrai qu'il y a un musée que j'ai apprécié particulièrement à Paris. C'est le musée des arts décoratifs. Je pense que j'essaie en tout cas faire tous les expos dans ce musée, mais il y a une exposition qui m'a marquée juste par sa richesse et densité. C'était l'expo autour de Christian Dior, couturier du rêve, qui était en 2018 d'ailleurs, même année. Il y a déjà quand même, il y a déjà 2 ans. Mais tu vois, j'ai resté marquée par cette exposition parce que pour 70 ans de la création de la maison Dior, ils ont réuni plus de 300 pièces, 300 robes et pièces de haute couture. Mais c'était juste fabuleux. Revoir toutes ces créateurs de leur création, comme j'apprécie énormément, comme Saint Laurent, Jean Galliano, Raph Simon, et tout ça... Je veux dire, dans un musée, tout ça voir en même moment, je trouve que c'est quelque chose tellement grandiose et spectaculaire ce qu'ils ont réussi à faire. Et en plus aussi, amener cette côté, comment Monsieur Dior, en tout cas, voyait les liens entre la mode, les tisser les liens entre la mode et les d'autres formes d'art, parce qu'on voyait d'autres, ces tableaux, meubles, objets d'art. Donc c'est en quelque sorte aussi c'était une exposition d'art aussi avant tout, pas que de la mode. Et ces chambres, je sais pas si c'était l'occasion de la faire, mais il avait une chambre s'appelait Studio Blanc avec tous les prototypes, des moulages de toutes ces croquis, mais c'était tellement inspirant, tellement beau, tellement bien présenté que pareil, j'étais sur un petit nuage, j'étais émerveillée par toutes ces beautés. Et je pense que cette expo, elle a fait tellement de... En tout cas, moi, je regardais un petit peu mes amis qui sont pas forcément dans la mode et qui s'intéressent pas forcément en soi à ce qu'ils faisaient Monsieur Dior, mais ils sont tous allés voir cette expo et ils sont tous à ressortir avec les yeux grands ouverts en disant « mais c'est juste exceptionnel ». C'est vraiment, je pense, l'expo qui a touché au-delà des gens qui s'intéressent à la mode et qui travaillent dans l'industrie de mode. C'est, il y a presque tous les Parisiens et pas que qui l'ont fait, je pense.
Pour le coup, elle était bien marquante alors.
Exactement. Et peut-être pour aussi donner une exposition qu'on peut encore refaire après le confinement, parce que bon, là, je parle des expos qui datent déjà. Moi, je conseillerais aussi vivement à tout le monde de quand même découvrir, si c'était pas encore fait, Musée Yves Saint Laurent. Musée qui, quand même, chaque saison propose aussi des expos assez intéressantes. Et en ce moment, on peut voir l'expo de Betty Catroux et Saint Laurent, qui était fait par Anthony Vaccarello, qui est designer artistique de la maison Yves Saint Laurent en ce moment. Et moi, je trouve, déjà, l'atmosphère de création de studio de Saint Laurent, c'est quand même extrêmement intéressant à découvrir, cet univers. Mais là, cette expo-là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la pièce avec toutes les déclinaisons de smoking féminin qu'il a créé. Et justement, Kébéti Katrouille portait, donc il a donné quand même pas mal de pièces de sa propre garde-robe. C'était juste exceptionnel. Déjà, c'est en soi une pièce qui je pense qu'une de mes pièces préférées dans la garde-robe féminine, mais qui vient justement de garde-robe masculine. Donc, voilà, ça c'est encore une expo qu'on peut faire encore jusqu'au mois de mai. Ou peut-être ce sera prolongé de nouveau, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça s'est marqué aussi beaucoup. En soi, ce musée, cette atmosphère, la musique, comment c'était fait. Je pense que comme Anthony Vaccarello aime beaucoup, côté amener toujours la musique dans ses boutiques. Récemment aussi, il a fait un café shop à la rive droite. Et justement, il proposait à tous les clients de télécharger un playlist qu'il écoute cette semaine. Et je pense que c'est très intéressant qu'il a amené cette musique-là. Donc, il y a toujours un playlist qu'on attend très, très bien. Et même s'il y a quelqu'un, nos guides, qui nous raconte l'exposition, ça fait partie de cette exposition. Je trouve que c'est extrêmement bien fait avec la lumière, les films qu'on voit, la musique, c'est extrêmement bien pensé.
Ah ben en tout cas, on peut encore y aller jusqu'en mai, donc à noter dans les agendas. Parce que moi, j'avoue, je ne l'ai pas encore faite, cette exposition, mais là, tu m'as vraiment donné envie d'y aller. Et à part les musées, comment tu t'inspires et comment tu nourris ta créativité?
Alors, moi, je trouve en soi déjà Paris, la ville est extrêmement inspirante. Voilà, tu vois, je commence à faire mes longues balades à pied ou en vélo et je me sens déjà plongée dans un tableau. Tout à Paris m'inspire, tu vois. Je regarde les Parisiens, leur manière d'être, s'habiller. En soi, je pense que ce qui est pour moi inspirant au-delà de toutes les expositions qui, quand même, on atteint en Paris, c'est justement sentir cet esprit, de voir cette beauté que je trouve qui m'entoure au quotidien. Je sors juste de chez moi et je vois toutes ces beautés-là. Voilà, ça m'inspire avant tout. Je pense que c'est la beauté qui m'inspire. Après, bien sûr, toutes les expos, les artistes qu'on peut aller voir. Également,
est-ce que tu maintenant, lis, par exemple?
Oui. Bon, à ce moment, j'ai lu plusieurs choses à la fois. Mais justement, j'ai acheté à l'expo de Yves Saint Laurent récemment un bouquin sur la vie, s'appelle Beautiful People, sur la vie de Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld, justement comment leur vie s'est passée en parallèle. Voilà, ça c'est ce qui est côté de la mode, mais après, dans mes lectures, j'aime bien aussi la littérature classique, j'aime bien aussi des écrivains français. Et quand je m'intéresse beaucoup en ce moment à la femme parisienne, ce qu'elle représente, je lis Simone de Beauvoir aussi en ce moment. Voilà, à part d'autres bouquins professionnels. Oui, dans la littérature, la musique, je trouve aussi beaucoup d'inspiration aussi dans le cinéma, d'un certain réalisateur que je trouve extrêmement inspirant à leur manière de créer l'image. Et pareil aussi, je pense qu'un petit peu comme tout le monde, sur les comptes Instagram de certaines personnes créatives, c'est pas forcément les personnes qui travaillent dans la mode, c'est justement les personnes qui sont passionnées. En fait, à la base, j'aime beaucoup les gens passionnés qui vivent par leur passion. Par exemple, récemment, j'ai découvert un compte Kelly Flavel, c'est une Australienne qui est déménagée il y a 10 ans en Italie. Et moi, j'ai un grand passion pour ce pays, la langue italienne. Et moi, je trouve, en fait, elle est filmmaker indépendant. Et il crée des images, mais juste sublimes. En fait, elle est tout ce qu'elle aime dans sa vie, la cuisine, l'Italie, les couleurs, un peu la mode vintage. Voilà, elle met tout ça en valeur d'une manière, mais juste... elle sublime en fait, pareil, la beauté qui l'entoure au quotidien. Et moi, je m'inspire beaucoup, voilà, de toutes ces gens-là, de leur compte, de leur contenu.
Et elle partage ça sur Instagram?
Oui, elle a une page Instagram, mais je trouve ce qui est plus intéressant, c'est plutôt sa chaîne YouTube où elle propose des petits films En fait, tous les week-ends pendant le confinement, les créer vraiment mes petits courts métrages. En fait, c'est pas juste filmer son quotidien. Elle fait vraiment comme une professionnelle des vrais films. Vrai film qui raconte une histoire, telle ou telle personne, ou juste il filme des beaux cadres en Italie. Elle est également beaucoup végé. Donc, tu vois, mais c'est encore une fois parler les gens qui m'inspirent et les choses qui m'inspirent, c'est, tu vois, les gens aussi, comme par exemple, Julie Andrieux, qui créait l'émission pour faire vivre un peu les tiroirs français, la cuisine française, qui voyage un peu partout en France. Et qui raconte des gens qui gardent précieusement les recettes de leurs grands-parents. Moi, je trouve sa démarche extrêmement beau, ce qu'il fait pour perdurer dans le temps ce savoir-faire. Ou ce qu'il fait Stéphane Bern, qui nous raconte l'histoire de tout ce patrimoine, de tout ce qu'il essaie de préserver aussi en France. Voilà, tu vois, c'est tous ces gens-là, peu importe leur domaine où ils travaillent, des choses qui les passionnent. Le moment qu'ils sont passionnés, ils arrivent à véhiculer, tu vois, sa passion aux autres et ça devient très intéressant. Donc moi, je m'inspire de tout ça, tu vois, même pour mon projet, je pense en suivant Julie Andrieux, en suivant tous ces créateurs de contenu, je me dis, mais voilà, ils ont une histoire, une vraie histoire à raconter et c'est très intéressant, en tout cas, amener ses passions, transmettre sa passion aux autres, créer quelque chose, créer un produit, créer un service qui raconte ça. Voilà.
Donc, en fait, les passionnés qui arrivent à transmettre leur passion aux autres, en fait.
Exactement.
Et sur ces belles paroles, on arrive à la fin de notre très passionnant échange. Et la toute dernière question que j'aimerais te poser, c'est si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, donc récemment, j'ai mis en ligne mon site web qui est avec le même nom, pariclairstyle.com. Ce site. Et pareil, j'ai un compte Instagram, Reliasa, pareil, avec le même nom, pariclairstyle. Voilà, c'est toujours le même titre.
Il est facile à trouver. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Svetlana, pour cet échange passionnant d'avoir accepté mon invitation.
Ben, merci à toi, Diane. Et aussi, je voulais te remercier pour cette opportunité d'avoir cette discussion. Et moi, je trouve déjà dans ta démarche, il y a beaucoup justement cette bienveillance et l'ouverture vers l'autre, que tu t'intéresses justement au travail des autres, ce qu'ils font, et que tu as envie de mettre les talents des autres, leur travail en valeur. Moi, je trouve c'est extrêmement humble de ta part aussi, avec beaucoup de modestie, de bienveillance. Donc, je suis très, très contente de faire partie de ce beau projet.
Merci beaucoup pour ton soutien. Ça me fait énormément plaisir. Et du coup, je te dis à très bientôt. Et encore une fois, merci pour tes mots, pour ton temps et pour toutes ces inspirations que tu nous as partagées pendant cette bonne heure qu'on a passée ensemble.
Oui, effectivement, j'ai même pas vu l'heure passer. Merci beaucoup, Diane.
C'était tellement passionnant que là, je pourrais continuer même encore une heure, mais je me dis qu'on va peut-être éviter.
Oui, c'est ça. Il y a tant de choses à dire à ce sujet. Effectivement, c'est très passionnant. C'est très passionnant.
Mais ça fait aussi plaisir vraiment de voir des personnes, même comme toi, qui sont passionnées, intéressées sur le sujet et qui acceptent de partager aussi avec toutes les personnes qui sont encore en train de nous écouter, s'il y en a encore. Donc, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup, Svetlana. Je te dis à très bientôt.
À très bientôt, Diane. Merci.